Anne Verdaguer présente le journal des Amériques et d'Haïti. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles et bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de cette scène assez incroyable qui s'est passée hier dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Le président Donald Trump a menacé de paralyser l'administration américaine s'il n'obtenait pas l'accord pour financer son mur entre les États-Unis et le Mexique. Le récit de notre correspondante à Anne Corpé à Washington. On va revenir également sur la personnalité de l'année selon le magazine Time qui a désigné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi tué en octobre dernier. Et puis notre dossier Haïti s'intéressera aujourd'hui au réseau des blogueurs haïtiens qui ont décidé de lutter contre la des informations sur Internet. Le président américain menace donc de paralyser partiellement l'administration s'il n'obtient pas le financement pour construire son mur à la frontière avec le Mexique. Il s'est entretenu ce mardi avec les deux dirigeants du Parti démocrate pour évoquer cette question. Un échange dans le bureau ovale auquel assistaient des journalistes et qui a vite tourné court. La correspondance à Washington d'Anne Corpé.
C'est un épisode ordinaire de la vie politique aux États-Unis. Avant chaque fin d'année, démocrates et républicains négocient la loi budgétaire sous la menace d'une paralysie de l'administration si aucun accord n'est trouvé dans les temps. Mais la virulence des propos échangés dans le bureau ovale ce mardi n'avait, elle, rien d'habituel. Pendant près de 15 minutes, Nancy Pelosi, Chuck Schumer et Donald Trump se sont écharpés au sujet du mur pour la construction duquel la Maison-Blanche exige 5 milliards de dollars. Afin de les obtenir, le président assume parfaitement de mettre l'administration fédérale à l'arrêt, comme en témoigne cet échange entre le chef des démocrates au Sénat et Donald Trump.
Je pense qu'on peut être d'accord sur une chose. On ne devrait pas bloquer l'administration à cause d'une dispute. Et vous voulez le faire, vous en parlez tout le temps.
Non, Chuck. La dernière fois, c'est vous qui avez provoqué la paralysie.
Non. 20 fois.
Je ne veux pas faire comme vous, Chuck.
20 fois, vous avez dit, je bloquerai l'administration si je n'obtiens pas le mur. Vous l'avez dit.
Vous voulez mettre ça sur le dos.
Vous l'avez dit.
D'accord. J'assume.
Ok, très bien.
Et vous savez quoi? Oui, eh bien, si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, je bloquerai l'administration. Et je suis fier.
Nous ne sommes pas d'accord.
Je suis fier de bloquer l'administration pour la sécurité à la frontière.
Nancy Pelosi a finalement demandé à ce que la conversation se poursuive en privé. À la sortie de la Maison Blanche, la chef des démocrates à la Chambre n'a fait état d'aucun progrès. Le président a lui estimé qu'ils avaient eu un dialogue constructif. Anne Corpé, Washington. RFI.
Bonjour Harim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Alors cet échange musclé entre le président américain et les deux dirigeants démocrates fait aussi la une de la presse nord-américaine.
Oui, comme presque tous les journaux, Anne, le New York Times publie sur son site internet la vidéo de cette conversation musclée dont on a pu entendre quelques extraits. Cette conversation qui donne le ton pour les deux ans à venir, estime le journal. On ne peut qu'espérer que d'autres réunions en privé se dérouleront d'une manière plus apaisée, ajoute le New York Times. Et d'après le Washington Post, le président Donald Trump est confronté pour la première fois à une véritable opposition, alors qu'avant, il lui suffisait, écrit le Washington Post, de donner des instructions tous les matins de son lit via Twitter. Eh bien, il doit à présent répondre à des questions sur ses propos contradictoires et mensongers. Les deux démocrates ont fait savoir au président que désormais, le gouvernement est divisé. Visiblement surprise par cet échange devant les caméras, Nancy Pelosi a d'ailleurs lancé plus tard à ses collaborateurs, cet allié dans le Washington Post, j'ai l'impression d'avoir fait une compétition de chatouillement avec une moufette.
Une moufette, tiens.
Une moufette.
Autre titre dans la presse ce matin, Harim, le choix de la personnalité de l'année du magazine Time.
Oui, exactement. Chaque année, vous savez, le magazine Time choisit une personnalité de l'année. Eh bien, cette année, en 2018, eh bien, ce sont plusieurs personnalités qui ont reçu cette distinction hier et tous sont des journalistes. D'abord, le journaliste saoudien Jamal Khamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat d'Arabie à Istanbul. Mais d'autres confrères ont également été honorés, comme la journaliste philippine Maria Ressa, deux reporters birmans de l'agence Reuters, actuellement en prison, ainsi que la rédaction du journal local américain Capital Gazette, qui a été la cible d'une attaque en juin dernier. Alors, le lien entre ces personnalités, eh bien, elle symbolise pour l'hebdomadaire Time, la recherche de la vérité et des risques qu'elle présente aujourd'hui. Car en temps normal, écrit Time, les médias américains font tellement partie de la vie publique que l'on les remarque même pas, un peu comme l'air que l'on respire. Mais les attaques constantes du président Trump contre la presse a rendu les médias à nouveau visibles. Toute tentative visant à questionner les faits et ceux qui recherchent honnêtement ces faits met en doute le fonctionnement de la démocratie, conclut l'hebdomadaire. Time.
On prend la direction de la Bolivie à présent, à Rime, où la ville de Santa Cruz a été le théâtre de violences survenues en marge d'une manifestation d'étudiants.
Et c'est à la une du journal La Razón. Les étudiants protestaient contre l'autorisation obtenue par le président Evo Morales de briguer un quatrième mandat. Les bureaux du tribunal électoral local ont été incendiés. Les autorités accusent l'opposition d'être responsable de ces violences. L'opposition qui, elle, pointe du doigt le gouvernement, avançant l'hypothèse d'un coup monté par des personnes infiltrées. Le journal El Diario parle d'une révolte des étudiants. Dans son éditorial, le quotidien rappelle le droit de manifester pacifiquement, mais met en garde contre toute forme de violence. Pour le journal Cambio, proche du pouvoir, le responsable de ces actions antidémocratiques est la droite qui lance, selon Cambio, un projet destiné à déstabiliser le pays et la démocratie.
Direction l'Argentine à présent, deux cadres d'une multinationale, en l'occurrence le constructeur automobile Ford, ont été condamnés pour complicité avec la dictature militaire en place entre 76 et 83. Retour sur ce long procès avec notre correspondant à Buenos Aires, Jean-Louis Boucher.
Nous avons été enlevés par des militaires à l'intérieur de l'usine. Ford était complice. C'est ce que disait Pedro Norberto Troiani, ancien syndicaliste de la filiale argentine du constructeur américain, en 2006, après avoir déposé une plainte contre Ford et les dirigeants de la compagnie en place sous la dictature. Selon Troiani et les 23 autres plaignants, tous d'anciens ouvriers qui ont survécu à la répression, le directeur de l'usine de l'époque, Pedro Mueller, avait ouvertement salué le coup d'État, tandis que le chef de la sécurité de Ford, Hector Sevilla, fournissait aux militaires des renseignements sur de prétendus subversifs. 12 ans après, la justice a donné raison à Troiani en condamnant Mueller à 10 ans de réclusion, Sevilla à 12 ans et l'ancien général Santiago Riveros, qui commandait la base militaire où les ouvriers ont été détenus et torturés, à 15 ans. D'autres procès pour complicité avec la dictature sont en cours contre des entreprises étrangères et argentines, mais celui de Ford apparaît d'autant plus emblématique que les militaires utilisaient pour les enlèvements des Falcon, alors le modèle le plus vendu par la firme américaine en Argentine. Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
La suite de votre rue de presse arrive avec le Brésil, où un homme de 49 ans a ouvert le feu hier dans la cathédrale de Campinas, près de Sao Paulo. Il a tué 4 personnes avant de se suicider.
Et c'est en une du journal Folha de Sao Paulo qui tente de cerner le profil du tireur qui a également blessé 4 autres personnes. Un homme célibataire catholique, mais critique à l'égard de l'église, dépressif et au chômage depuis 4 ans. Il s'est suicidé devant l'hôtel de la cathédrale de Campinas, écrit Folha de Sao Paulo, une cathédrale qui rouvrira ses portes dans quelques heures pour une messe en hommage aux victimes, annonce au Globo.
On termine rapidement avec cette enquête sur l'utilisation des médias aux États-Unis.
Oui, pour s'informer de l'actualité, les Américains utilisent désormais plus les médias sociaux que les journaux imprimés. Un véritable basculement selon le sondage du Pew Research Center, repris par le journal canadien Le Devoir.
Merci à Rémi Paul pour cette revue de presse des Amériques.
RFI à Cap-Haïtien. 100.5 FM.
On en parlait il y a quelques instants dans la revue de presse. L'usage des médias sociaux est de plus en plus fréquent pour s'informer, ce qui pose le problème des fausses informations, les fake news. En Haïti, le réseau de blogueurs haïtiens a créé un site de fact-checking, autrement dit de vérification d'informations. Le reportage d'Amélie Baron à Port-au-Prince.
Le site Thomas est aussi simple d'utilisation que ne l'est son adresse, www.toma.ht. En page d'accueil, il suffit de copier le lien d'un article publié sur le web pour en connaître le degré de fiabilité. Comme l'explique Wilnet Harris, le président du réseau des blogueurs haïtiens, l'idée de créer cet outil est venue il y a 2 ans.
C'est parti d'un constat que nous avons fait au niveau du réseau des blogueurs d'Haïti lors du passage de l'ouragan Mathieu. Dans le département de la Grand'Anse du Sud, on a vu qu'il y avait des informations qui circulent à chaque instant et qui ne se révèlent pas vraiment vraies. Et du coup, on a commencé à travers une page Facebook à rectifier certaines informations qui nous sont arrivées mais qui n'étaient pas de vraies informations. Et c'est comme ça l'idée est venue maintenant, de trouver un moyen où on peut lancer ce fact-checker de manière automatique afin de combattre ces mauvaises informations chez nous.
Les plateformes de fact-checking se multiplient, mais pour Ludwig Jean-Paul, de l'équipe de Thomas, le site a l'avantage de vérifier des sources haïtiennes d'informations qui passent la plupart sous les radars des sites ou applications internationales.
Thomas, pour l'instant, se concentre sur Haïti et se concentrent sur la langue française, pour bien des raisons. Mais pour l'instant, oui, et le fait que nous nous concentrons essentiellement sur Haïti, évidemment, les Haïtiens, ce sera plus facile pour eux de retrouver des informations dessus.
Et qu'est-ce qu'on vous a demandé de vérifier, par exemple ?
On nous demande de vérifier pratiquement tout ce qui se passe, les informations politiques, les informations que l'on entend à la radio, les informations qui sortent dans les nouvelles. Mais il faut bien comprendre que nous ne vérifions pas nous-mêmes, ce n'est pas le RBH qui vérifie, c'est plutôt la communauté que met en place Thomas qui vérifie, qui confirme, qui infirme tout le monde ensemble. C'est un travail vraiment de communauté.
En Haïti, il y a un problème d'accès aux sources d'informations, des documents publics que n'importe quel citoyen devrait pouvoir consulter. Ces documents-là manquent, on le voit depuis cet été avec le phénomène Petro-Caribé Challenge. Comment faire du fact-checking, notamment voilà, vérifier les informations quand on a des accusations graves de corruption, notamment contre des anciens ministres ou des anciens dirigeants?
Oui, alors ça je pense que c'est notre prochaine étape. C'est justement pour cela que nous avons besoin de budget pour monter une équipe d'investigateurs et tout. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la fiabilité d'une information et des sources. Lorsqu'une information vous parvient et que personne ne peut vous dire si elle est fausse ou vraie, mais vous avez un outil qui peut vous dire, bon, suivant telle source, il y a plus de chances que ça soit vrai ou faux. Mais pour l'investigation, oui, il faudra passer à cette étape-là. Il faudra aussi faire beaucoup de lobbying pour que la loi soit respectée, puisque la loi oblige nos responsables à donner des informations, ce qui n'est pas encore le cas, malheureusement.
Malheureusement, Thomas ne permet aucune vérification des informations contenues dans les messages qui circulent via WhatsApp. D'où les efforts de l'équipe pour inculquer aux Haïtiens la règle d'or pour une bonne utilisation des réseaux sociaux, qui est de douter et de vérifier avant de partager. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et je vous donne l'adresse de ce site www.thomas.ht. Chaque année, en Bolivie, dès le mois de novembre, les discussions sont vives entre les employeurs et les salariés. La question est de savoir comment payer un 14e mois, une mesure pour stimuler l'économie, une disposition non viable et électoraliste pour certains. Pendant ce temps, les employeurs cherchent des moyens pour payer 3 salaires d'un coup, celui de décembre, le 13e et le 14e mois. Le reportage à la passe d'Alice Campagnol.
Un 14e mois de salaire obligatoire pour le secteur public et le secteur privé. Voilà de quoi faire rêver beaucoup d'employés. C'est le cas en Bolivie et ce depuis 2013. Ici, on paie un 13e mois, mais également un 14e mois de salaire. Seule condition pour le paiement de cette prime, que l'on appelle le second aguinaldo, que le PIB annuel atteigne les 4,5%, un indicateur de la bonne santé de l'économie bolivienne. Pourtant, selon Alberto Bonadonna, économiste, le PIB de l'ensemble du pays n'est pas le meilleur marqueur.
L'économie de la Bolivie est très hétérogène. Par exemple, l'augmentation du prix des matières premières a eu plus d'impact dans la région de Tarija que dans le reste du pays. Aujourd'hui que les prix ont baissé, eh bien Tarija est en récession. Sa croissance est négative. Il est arrivé la même chose dans le département de Chuquisaca. Même problème. Quand les prix ont chuté, ça a eu un impact sur les revenus de tous ceux qui vivent dans ces zones et donc sur les marchés internes. Les entreprises également en ont pris un coup, peu importe leur taille, elles ont moins de clients.
Agustin Mamani travaille dans le secteur textile depuis plus de 20 ans, un secteur qui justement est en crise.
Nos unités de production survivent à peine. Dans mon cas, nous ne sommes plus qu'une petite usine familiale. Nous étions 30 employés, mais désormais, nous travaillons seulement en famille. Nous survivons, c'est tout. Donc payer un 14e mois, vous imaginez, ça signifie tuer les petites et moyennes entreprises.
Pourtant, quand le second aguinaldo a été lancé, Agustin l'avait vu d'un très bon œil.
Nous nous sommes dit, les gens vont consommer pour la fin de l'année et nous allons doubler, voire tripler nos ventes. Mais nos produits ne sont pas vendus. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit 3 salaires, son salaire de décembre, le 13e et le 14e mois, il ne s'intéresse pas aux petits produits nationaux. Non, il veut acheter des produits importés comme l'électroménager ou une voiture.
Et il suffit de faire quelques pas dans la rue pour comprendre que non seulement les Boliviens n'utilisent pas cet argent pour acheter des produits nationaux, mais que surtout, ils l'épargnent.
Nous allons épargner cette année parce que qui sait à quoi ressemblera l'année prochaine.
Je vais le toucher et le mettre de côté. Cet argent est vraiment utile.
L'an dernier, je m'en suis servi pour payer mes dettes, car je gagnais vraiment très peu.
Beaucoup d'entreprises reconnaissent emprunter pour pouvoir payer ce 14e mois. Pour Alberto Bonadonna, cette mesure fait du mal à l'économie du pays.
Très égoïstement, ça me paraît génial, car je suis employé et je vais le recevoir. Mais quand on pense à l'économie, non, ce n'est pas la meilleure mesure. D'abord parce que ça n'injecte rien dans l'économie nationale. Pour ce qui est des petites et des moyennes entreprises, ces ressources utilisées sont essentielles pour pouvoir s'agrandir, ce qui est vital pour une économie comme celle de la Bolivie.
Aujourd'hui donc, les négociations continuent entre syndicats, patronat et gouvernement pour trouver un arrangement avant la fin de la semaine pour pouvoir payer le second aguinaldo sur plusieurs mois peut-être, ou le limiter à une certaine somme. Alice Campagnol, La Paz, RFI.
L'actualité ultramarine à présent avec le journal La Première Caraïbe présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui, les salariés et le conseil d'administration de la Société d'économie mixte de Saint-Martin craignent une reprise en main par l'État de leur activité.
Née en 1985 à Saint-Martin, comme son nom l'indique, la SEM-Samar est devenue au fil du temps la troisième société d'économie mixte de France. Elle est aujourd'hui propriétaire de la majeure partie du parc social de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Elle est présente également en Guyane et en Martinique, et elle est aujourd'hui dans la tourmente depuis entre autres des déclarations sévères d'Emmanuel Macron en personne lors de sa visite à Saint-Martin. La gouvernance de la SEM-Samar pourrait donc être recentralisée, reprise en main au grand dam de ses salariés et de Guy Losbar. Il est vice-président du conseil régional de la Guadeloupe et membre du conseil d'administration de la SEM-Samar. Il est au micro de Nicolas Pietrus de la Première Guyane.
C'est une force que nous puissions être ensemble dans une même structure. Et nous ne pouvons que déplorer toutes ces tentatives de déstabilisation et qui seraient préjudiciables pour l'ensemble des départements. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, en révoquant la directrice, derrière, c'est pour mettre un directeur, ensuite un directeur issu de cette stratégie nationale et qui ferait que toute la politique de logement, aussi bien en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, et à Saint-Martin serait totalement décidé de Paris avec sans aucune possibilité pour nous de pouvoir intervenir.
Allons en Guadeloupe, justement, la Guadeloupe qui compterait 7 domaines particulièrement vulnérables face au changement climatique. C'est ce qui ressort d'une étude présentée ce matin aux décideurs locaux par l'Observatoire régional de l'énergie climat. Selon l'écologue Jean-Marie Flowers, l'un des domaines les plus vulnérables serait celui de la forêt humide, la forêt en bord de mer. Écoutez-le au micro de la Première Guadeloupe.
En Guadeloupe, il faut savoir que les écosystèmes inondables les plus menacés, c'est ceux qui sont en eau douce. C'est la forêt marécageuse en particulier, qui ne supporte pas l'eau salée. Or, précisément, le dérèglement climatique va faire s'élever le niveau de la mer entre 1 et 2 mètres à l'horizon d'un siècle. Et donc, ça veut dire que la mer va rentrer de plusieurs dizaines de mètres, peut-être même plus de 100 mètres, à l'intérieur des terres. Et la seule manière pour la forêt marécageuse de survivre, c'est de pouvoir, elle aussi, suivre ce déplacement. Malheureusement, elle bute sur les terres, elle bute sur les terres agricoles, elle bute sur des infrastructures comme des routes, elle bute sur des zones industrielles, sur des zones d'aménagement, des zones résidentielles. Et le véritable enjeu pour la Guadeloupe, c'est justement de ménager des espaces de retrait à cette forêt marécageuse pour que d'ici 20, 30, 50 ans, on puisse encore, nos enfants puissent encore bénéficier de tous les services écosystémiques, à la fois donc la régulation du climat, la régulation des températures, la régulation des inondations, et puis tous les services associés à la biodiversité, donc la pollinisation, et puis tout simplement le bien vivre au quotidien.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, merci Benoît Ferrand. C'est la fin de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous être fidèles. Merci à Antonin Dulé, à la réalisation, ainsi qu'à toute l'équipe du service international qui m'a aidé à préparer cette tranche d'information. Restez avec nous. L'info continue dans un instant sur RFI.